Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Oh.
Bonsoir à vous qui tendez l'oreille sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Comme tous les dimanches, eh ben c'est l'heure de la causerie, ou presque tous les dimanches.
Sauf quand on est malade.
C'est un peu ça, oui, effectivement.
Des fois, on est malade et on ne peut pas bien.
C'est tout à fait ça. Donc, ce soir, dans les studios, petite équipe, c'est Fab au micro.
Bonsoir, et Jean-Yves à la technique.
Tout à fait, bonsoir. Et bien, avant de se lancer un peu comme
on fait des bisous à Clara, déjà.
Oui, bien évidemment.
Voilà, qui, je suis sûr, là où elle ne nous écoute pas, mais elle serait contente qu'on lui...
Ça, je comprends pas comment on peut pas nous écouter loin d'ici, quoi. Enfin bon. Comment nous contacter? On va vous le rappeler, hein, même si on le fait toutes les semaines ou presque. Donc, si vous voulez nous écrire, si vous êtes un artiste, une artiste, je ne sais pas, dessinateur, dessinatrice, musicien, musicienne, plasticienne, militant, militante, ou juste auditeur, auditrice qui a envie de donner son avis, vous avez bien le droit. Et ben, c'est à la causerie canu, tout attaché en minuscule, donc lacausericanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment toutes les émissions sur le blog de l'émission, y compris le dernier témoignages que nous avons diffusés d'analyse, et n'hésitez pas là non plus à faire des retours
et à le partager.
Et à partager, évidemment. Donc c'est à blogs, avec un S, vous l'aurez compris, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous retrouvez aussi la causerie sur plein de petites plateformes d'écoute musicale.
De baladodiffusion.
Et de baladodiffusion, etc., etc. Vous tapez la causerie Radio Canu, normalement vous nous retrouvez. Je crois que j'ai pas oublié. Et on est sur un réseau socio-commercial, celui de Mark Zuckerberg.
Tout ça pour pas dire Facebook.
Oui, c'est ça.
Alors, on dira pas le nom du réseau, mais c'est Mark Zuckerberg qui est à la tête du réseau. Bon, ok, c'est pas Facebook.
Oui, c'est vrai, je pourrais le dire. Donc voilà, donc c'est pareil, hein, la causerie Radio Canu. Et en fait, vous y retrouvez que les podcasts. Hein, donc vraiment, si vous voulez commenter, si vous voulez donner votre avis ou autre, on vous invite vraiment à le faire sur le blog, parce que ça n'appartient à personne. En tout cas, ça n'appartient
qu'à Radio Canu. À Radio Canu, autogéré.
Et c'est ça. Et on ne fait pas d'argent dessus, on ne vend pas vos données, etc., etc. Donc voilà, c'est un espace libre et non commercial.
Parce qu'on ne peut pas vendre vos données à l'anticapitalisme. Il n'achète rien.
Peut-être à l'antéchrist. Je ne sais pas. C'est une proposition peut-être à voir. Eh ben c'est Fab, parce que ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. Et il s'est passé des choses quand même en France, et tu voulais revenir sur l'assassinat de Naël.
Ouais.
Aime à dire une
bavure policière.
Une bavure, hein, mais c'est un assassinat en bonne et due forme. Donc tu voulais revenir là-dessus.
Oui, donc encore un mort tué par un flic, hein. Malheureusement. Naël, 17 ans, a donc été abattu par un flic le 27 juin à Nanterre pour un refus d'obtempérer. Alors, j'aimerais écrire cela comme si c'était un fait exceptionnel et extraordinaire, mais non, la mort de ce jeune homme s'ajoute à des dizaines depuis des années. Rien que l'année dernière, 13, hein, pour reprendre les chiffres, tout simplement. L'année d'avant, 17, alors qu'on était en période Covid.
Oui.
Voilà. Voilà, bah, c'est quand même beaucoup et très élevé. Et cela va en s'accélérant depuis la loi Cazeneuve de 2017, hein, qui allait dans le sens du syndicat d'extrême droite Alliance Police, rappelez-vous, à l'époque, d'autoriser les policiers à faire usage de leurs armes quand ils avaient, je cite entre guillemets, un cas manifeste de refus d'obtempérer et qu'ils se sentaient en danger. Fermez les guillemets. C'est très vaste hein, comme définition, mais voilà. Donc à l'époque, hein, quand même, dans la causerie, nous avions souligné le caractère extrêmement dangereux de cette loi qui était la porte ouverte à un permis de tuer sans limite. Et on maintient ce qu'on a déjà dit à l'époque, c'est un permis de tuer sans limite. Hein, voilà. Depuis, des gens tombent sous les balles, des flics régulièrement, mais la loi les protège, ces fameux flics en question. Alors, ce qui a fait la différence dans le cas de Naël, c'est que, et pas de bol hein, pour le mensonge policier, au moins trois personnes ont filmé ce qu'il s'est passé. Et donc on peut clairement voir que contrairement à la version posée par les flics, non, il n'était pas en danger, et non, la voiture n'était pas en train de fuir en poussant le moteur. Je cite, hein, c'était ce qui était dans leur déposition. Non, on a en fait un policier qui tue à bout portant un gamin parce que la voiture, à boîte automatique, avance légèrement à très faible allure. Alors, il y a plein de spécialistes qui, depuis, ont dit ce qui a dû se passer, et ce qui est très probable, c'est que dans la panique, Naël aurait simplement levé le pied du frein. Et sur une voiture automatique, si vous levez le pied du frein, la voiture part à 3 km/h. Donc, ça va normalement.
Une grosse mise en danger, quoi.
Ouais, voilà. Et il est clair hein, que ces policiers ne risquaient finalement rien. On le voit sur la vidéo, très clairement, ils sont sur le côté du véhicule. Alors, à moins que les voitures se déplacent en crabe maintenant, mais...
en latéral, quoi.
En latéral, c'est pas le cas. C'est donc bien un meurtre, rien de plus, une balle pour tuer, pour éliminer.
Oui.
Voilà.
Et là, quand même, on peut se dire, dans le malheur, une chance que ça ait été filmé.
Oui, c'est ça, c'est que c'est ouais, c'est pas, je sais pas si
non,
une chance est bien dit, mais
j'ai
pas trouvé, mais je vois ce que tu veux dire.
C'est juste... Ouais. Heureusement qu'il y a des vidéos qui peuvent amener des éléments de réponse à une réalité falsifiée dès le départ par le policier, en fait. Dès le départ, il a fait une déposition
Il a affirmé que la voiture était à vive allure, qu'il était que son collègue allait être écrasé, enfin tout...
Donc, on peut penser à toutes celles et ceux, il y en a plusieurs qui sont morts aussi dans des fourgons,
On
a vendu la même histoire, voilà. La personne était dangereuse, etc. Mais elle n'était pas filmée, donc il pouvait bien raconter ce qu'il voulait.
Exactement. Alors bien entendu, cette mort, elle a entraîné une poussée de révolte dans les quartiers dits populaires, pauvres hein, pour le dire autrement, parce qu'à un moment donné c'est bien les euphories, les euphémismes, mais voilà. Ce qui devrait d'ailleurs interroger sur le fait que ce soit les seuls endroits qui se soient réellement soulevés, c'était les quartiers pauvres, comme si nous étions collectivement habitués à ce que la police tue. Parce que c'est peut-être ça le problème qui est derrière, c'est que collectivement, a priori, on est tellement habitués que ça nous a pas mis tellement en colère. Vous voyez, c'est un peu problématique.
Et qui plus est dans les quartiers pauvres.
Oui, la police tue, et principalement. Donc 13 fois l'année dernière, hein, donc je disais, hein, de personnes tuées, 6 fois cette année, pour refus d'obtempérer, hein, toujours. Pratique ce truc-là. Hein. Et selon les témoignages des policiers, car malheureusement il n'y a pas toujours de vidéos pour contredire les mensonges, c'est toujours justifié. Hein. Alors on voit d'ailleurs depuis le cas de Naël, qu'effectivement, on peut douter du fait que ce soit vraiment vrai. Mais je vous rappelle que les policiers sont assermentés, ils disent toujours la vérité. Oui, c'est bien connu. Voilà. Donc il y a eu 4 nuits d'émeutes hein, et de révoltes réprimées par une violence sans précédent des forces de l'ordre, parce que ça a assez peu été souligné, mais on parle quand même de plusieurs milliers d'arrestations.
Oui, plus de 3000
arrestations, et encore j'ai vu ce matin la Ligue des droits de l'homme disait que on avait du mal à comptabiliser, parce qu'en fait il y a carrément des gens qui ont été arrêtés, mis dans un bus commissariat, relâchés mais pas comptés. Ce qui est, je vous le rappelle, totalement illégal hein, au passage. Bon, lui ça ne dit rien, mais c'est pas grave. Ça a été réprimé par une violence donc très forte, une violence qui a blessé, mutilé, mis en danger de mort. Hein, on le rappelle. On peut d'ailleurs rappeler qu'il y a 4 policiers qui sont mis en examen à Marseille pour avoir tabassé une personne qui simplement se déplaçait.
C'était la BAC, je crois.
Voilà, c'est la BAC. C'est la BAC. Elle a vu une personne d'origine maghrébine. Elle se dit tiens, je vais lui taper dessus. Elle lui a tapé dessus. Elle l'a laissé pour mort sur le trottoir. Elle n'a pas appelé la police et les 4 policiers se sont barrés et leurs collègues les applaudissent à la sortie de la garde à vue. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez, moi ça me fait gerber. Voilà. Il y a donc eu des milliers d'arrestations aussi. Alors ça c'est le point le plus intéressant et le plus grave, parce que c'est quelque chose en fait qu'on maîtrise pas, mais qui est quand même souligné notamment par Amnesty International comme étant une technique d'intimidation de toute révolte ou expression de colère dans un pays. Et Amnesty International le rappelle, l'arrestation arbitraire, c'est un outil qui est utilisé systématiquement par les régimes dits non démocratiques. Mmh. Or là, en fait, si vous comptez le nombre de personnes qui ont été arrêtées par rapport au nombre de personnes qui ont été jugées pour des faits réels et le nombre de personnes qui ont été relâchées finalement qui n'avaient rien fait, en réalité, on est vraiment dans de l'arrestation arbitraire. Mmh. Et ça, en fait, on est en train de s'habituer. C'est peut-être le problématique. Donc ensuite, il y a eu des comparutions immédiates. Alors, il faut comprendre, hein, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont été arrêtés. Donc ces mineurs, en fait, ils savent pas qu'il faut pas... Oui, parce qu'alors, pourquoi je dis ça ? J'ai lu un superbe texte écrit par une organisation politique, dont je tairai le nom ce soir, okay. Mais plus révolutionnaire que les révolutionnaires, et qui explique qu'ils ne comprennent pas comment les gens ont pu accepter la comparution immédiate. Alors, c'est bien de l'écrire, mais ce serait peut-être mieux d'être présent pendant les manifs et les arrestations. Parce qu'en fait, ces jeunes gens, hein, y en a qui avaient 13, 14, 15 ans, ils savent pas, hein, qu'il faut dire non à la comparution immédiate, ils ont juste la trouille. Il y a des policiers qui leur foutent la trouille toute la nuit, ils leur disent, il faut que t'acceptes parce que sinon
tu vas en garde,
tu vas machin, machin. Donc ils ont peur. Et donc, eh ben, en fait, ils disent oui parce qu'ils ont pas le choix. Et donc, on a prononcé en France, hein, nous sommes en 2023, de la prison ferme pour des vols à l'étalage. Je le redis ou parce que la prison ferme pour des vols à l'étalage, voilà. Alors je savais pas que de voler une PlayStation pouvait valoir 8 mois de prison, mais je l'ai donc appris. Je trouve là il y a une sorte de truc qui me dépasse, mais a priori ça ne fait pas bondir grand monde.
Ben bah voilà. Non, et puis en plus je trouve je te coupe.
Non non, vas-y. Ouais.
Ben en plus surtout je trouve c'est amusant quand même, enfin amusant ou pas d'ailleurs, j'utilise mal mes mots ce soir mais vous l'aurez compris. C'est que la justice est censée être indépendante
et impartiale.
Mais en fait et impartiale. Mais il suffit qu'en fait le ministre de la justice dise il faut qu'elle soit exemplaire.
Et ben bah pas
en fait elle tape en
voilà,
fait.
C'est ça.
C'est marrant quand même finalement l'indépendance
alors
elle
on va
trop mise en question, sans que là aussi ça ne dérange pas grand monde et en même temps bon on sait déjà aussi quoi.
On va rappeler quand même que dans la comparution immédiate le poids du procureur, donc c'est-à-dire celui qui est nommé par le gouvernement, enfin pardon, officiellement c'est pas par le gouvernement
mais qui est
relié en fait au garde des sceaux. Est en fait beaucoup plus important dans la comparution immédiate qu'il ne peut l'être dans un procès autre. Donc c'est ce qui fait que généralement les peines sont plus lourdes. Mais là quand même on en est à se dire qu'il y a des gamins qui ont été envoyés à l'âge de 17 ans en prison comme des adultes parce qu'ils avaient volé une PlayStation. Oui. Voilà. Y a un moment là, moi je sais plus dans quel pays j'habite, hein, mais ça me dégoûte énormément. Donc il y a une répression que ne renierait finalement aucune autocratie de ce monde. D'ailleurs, pour se foutre un peu de la gueule de Macron, je vous rappelle que l'Iran et la Russie ont dit « Ouh, c'est pas bien la façon dont vous vous en prenez aux gens ». Quand on commence à avoir de l'ironie faite par des gens qui sont des mollas à la tête de l'Iran ou Poutine, faut se dire qu'on fait de la merde, hein, parce que sinon on n'aurait pas de l'ironie. Vous voyez, voilà. Donc on en est là, hein, et ça semble finalement pas étonner grand monde, et c'est peut-être ça qui est gênant. Voire même satisfaire une bonne partie de la société. Il faut dire qu'en ce moment, la parole se libère, hein, quand même pas mal. La parole, le racisme décomplexé, la haine, c'est un petit peu la foire à neuneux en ce moment. Pardon, c'est une vieille expression, mais voilà.
Bah moi, ça me refait penser à la France est un pays de flics, à tous les coins de rue,
il y en a 100.
Il y en a 100 ouais. Pour faire régner l'ordre public. En fait, c'est là où on se dit.
Ils assassinent impunément, c'est la suite de la chanson.
Oui. Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous, amis auditeurs, auditrices, autour de vous, vous n'avez que des gens révolutionnaires, vous avez beaucoup de chance. De vivre dans un ghetto révolutionnaire, c'est très bien. Mais quand vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas forcément de cette obédience, eh ben effectivement, on se rend vite compte que l'État peut compter sur beaucoup plus de flics et de juges qu'il n'en a réellement. Et ça, c'est là aussi.
Et ça, ça le rassure.
Oui, mais et en même temps, c'est ultra flippant, quoi. C'est-à-dire que il y a pas de recul. On se dit pas. Enfin, on n'essaye pas de contextualiser. C'est tout devient normal. C'est-à-dire de l'assassinat du jeune dans la bagnole jusqu'à une répression féroce des flics, puis suivi de la justice, tout est normal. Et confiance aveugle en l'État et ses services, quoi.
Ouais.
C'est incroyable, quoi.
Ouais, bon, c'est pas comme si 90% des policiers votaient à l'extrême droite, mais
ouais, mais là, c'est même, pour moi, c'est là, même ça dépasse au-delà des flics, quoi.
Enfin, des droites et l'extrême droite, pardon. Donc, il y a néanmoins quelque chose de nouveau, quand même, qui s'est passé autour de la mort de Naël. C'est que la parole s'est libérée. Mais pas celle qu'on espérait, hein, pas celle pour dénoncer les flics et leur impunité, par exemple. Non, non, non. C'est bien celle de droite et d'extrême droite raciste et haineuse qui s'en est donnée à cœur joie. Dès le lendemain, hein, sur les réseaux sociaux, circulait un mème. Vous savez, c'est des photos détournées, le mème. Pour dire, Quand on me demande de m'arrêter, je m'arrête et j'obéis. Avec une photo de flic qui montre la chaussée. Bon, alors déjà, hein, c'est nier complètement ce qui s'est passé, alors que pourtant on avait des images. C'est nier qu'on n'est pas dans un simple contrôle de police, que les deux policiers sont accrochés à la porte de la voiture, qu'ils ont une arme en main. Alors moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à me reprocher au point de vue routier, mais si un policier sort son arme à ma porte, je suis pas sûr que je réagisse comme s'il me disait juste de me garer. C'est bizarre. La vue d'une arme, souvent, ça fait bizarre. Mmh. C'est un truc comme ça dans le cerveau humain. On se dit, putain, je peux crever. Vous voyez, c'est un truc, voilà. Comparer donc les deux situations aussi éloignées, c'est nier le réel, en fait, tout simplement. Mais cela en dit long. Celles et ceux qui finalement partagent sont juste là pour dire que oui, la police a tous les droits et que si tu te prends une balle, c'est de ta faute. Et je mets ta en majuscule, c'est de ta faute à toi. Mmh. Pas celle du flic. Non. Il cherche à dire tout simplement que la police a toujours raison, qu'elle ne peut être remise en question, qu'elle est par essence pure, hein, voilà. C'est une vision connue et qu'il y a une filiation claire dans l'histoire. C'est le fascisme, pardon, mais ça vous fait peut-être mal aux oreilles. Mais le seul régime qui dit que la police a toujours raison, c'est le fascisme. Voilà, bah donc vous vous regarderez dans la glace, hein, mais voilà. C'est donner à l'ordre public la primauté sur la liberté, le droit et sur le réel. Et ben je suis désolé, mais quand on donne à l'ordre public la primauté sur la liberté, le droit et le réel, c'est le fascisme, c'est un état policier. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est bien donc un fascisme, même soft, qui s'exprime là. Alors je suis désolé, ça fait peut-être mal, parce que vous avez peut-être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des proches, des amis qui ont partagé ce truc-là. Et ben vous pouvez leur dire, excuse-moi, mais en fait là t'es juste en train de partager une doctrine fasciste.
Bon, c'est fait.
Voilà. Je parlais pas forcément pour toi, mais en tout cas, c'est des faits. Ensuite, on a eu le droit aussi à la cagnotte, hein.
Oui.
Lancé pour la famille, ah oui, alors la famille du flic, hein,
qui oui, a tiré. Évidemment.
Ouais, alors, attention. Lancé par Jean Messia, hein, soutenu par Hanouna. Oui, parce que c'est toute la fachosphère, hein, qui va faire tourner cette cagnotte, qui va récolter quand même plus de 1,7 million d'euros en moins de 3 jours. Ouais, je vous le redonne le chiffre, ou 1,7 million d'euros en moins de 3 jours. Alors que celle lancée par la mère de Naël, d'ailleurs, elle a rappelé qu'elle avait rien demandé, hein. Je le redis parce qu'elle l'a dit, qui élevait, je rappelle, seul son fils, hein, sans aide, elle avait qu'un fils. Donc, elle est aujourd'hui, elle a plus d'enfants. Elle peine à atteindre les 500 000 euros en plus de 20 jours. Voilà. Donc, on voit un petit peu qui on a envie de soutenir. Vous voyez, c'est, voilà.
Et qui soutient qui?
Et qui soutient qui, surtout, hein.
Parce que je crois de souvenir avoir vu sur la cagnotte pour le flic et sa famille, là, des versements de l'ordre de 3 000 euros, quoi.
Ah oui, oui, non, mais oui.
Je veux dire, c'est pas des smicards qui ont versé 3 000 boules, quoi.
Ben non. Donc, penser que c'est anecdotique, hein, ce serait faire une sacrée erreur. C'est quand même un marqueur très fort du sens que prend la France aujourd'hui. Imaginez que si on avait ouvert une cagnotte pour Jubilard qui a tué sa femme, comment on aurait réagi, par exemple. Que n'aurions-nous pas vu et entendu? Et là, pourtant, ça passe facilement et de façon assez massive. Il a fallu quand même plusieurs jours pour que dans les médias, il y ait des gens qui se disent peut-être pas très très logique qu'il y ait une cagnotte quand même. Au début, on disait oui, quand même, il y a une cagnotte ouverte. Ah bon, il y a une cagnotte. Bon, voilà. Bon. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui apparaît. La machine à café, le repas entre collègues devient un lieu de lâcher prise énorme. Alors, c'était déjà pas vraiment la joie, hein. J'avoue, moi perso, j'ai des fois du mal à manger avec mes collègues. Mais là, il semble que les vannes sont ouvertes et en grand. Et qu'on te justifie le meurtre d'un gamin au nom d'un casier judiciaire long comme le bras, hein, ça vous l'avez bien entendu, hein, alors que c'est faux. Et que cela a été quand même lancé par Alliance Police, hein, pour justifier le meurtre. Mais on va rappeler quand même que l'avocat de la famille de Naël a démontré qu'il n'avait pas de casier judiciaire.
Oui, et colporté aussi par Jean Messia, qui a des procès au cul, je crois.
Pour faux usage de faux.
Pour faux usage de faux, etc., etc.
Un homme de confiance.
Oui. Voilà.
On n'est plus vraiment chez nous avec tous ces Arabes, hein, évidemment. C'est pas moi qui parle, hein. c'est le collègue facho, hein. Je le dis comme ça. Et que bon, ils n'auraient pas bien fait cela dans leur pays, hein, voilà, évidemment. Moi c'est dur, mais voilà. Bref, c'est plus des vannes, hein, c'est une déferlante de merde quand même qu'on a, et qui s'est écoulée de bien des bouches. D'un seul coup, les gens se sont mis à faire caca par la bouche, c'est très embêtant, mais ça arrive. Bien entendu, c'était souvent accompagné d'un « je ne suis pas raciste, mais... » parce que bon, il faut toujours un petit peu diminuer ce qu'on est en train de dire, ou d'un « je ne justifie pas qu'il ait été tué, mais », ce qui revient exactement au même. Hein, je veux dire, voilà.
Dès qu'il y a un « mais » après un début de phrase, c'est que ça annule le début de la phrase.
C'est pas très bon en général. Bon, vous savez, c'est ces bonnes phrases bien puantes qui sentent bon le double sens pour encore plus enfoncer le clou de la haine. Et durant en fait ces dernières semaines, la CGT et Sud, donc deux organisations syndicales, font état en fait d'un plus grand nombre de signalements auprès de leurs syndicats pour des propos racistes. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les haineux se lâchent, et pas qu'un peu, mais ça se voit très vite. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu nouveau. C'est-à-dire que, en fait, il y a toujours un fond de racisme, on va pas se mentir. La société française est quand même une des sociétés les plus racistes du monde. Il y a toujours ce fond de racisme, effectivement. Par contre, les organisations syndicales sont rarement sollicitées, ou du moins ça arrive, mais on sait qu'on l'est, mais à un rythme constant. Voilà. On l'est parce que je suis syndicaliste, mais voilà. Là, en fait, c'est un pic. Je sais pas si ce que je veux dire. D'un coup,
il y a
eu quasiment, dans quasiment la plupart des syndicats, un retour de gens qui disaient non mais attends, là il y a quand même un problème quoi. Voilà. Donc on est sur vraiment une déferlante. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'il va falloir quand même qu'on ait en tête, parce que c'est pas voilà. Alors, comme j'avais envie de parler quand même des fautifs, je vais vous parler de la gauche de gouvernement. Hein, oui, parce que quand même. Donc du PS au PCF, de EELV. Et à même une partie de la LFI, ils ont été quand même nombreux à condamner les violences urbaines qui ont émaillé les révoltes. Ils nous ont expliqué que c'était pas bien, hein, ou c'est pas bien. Tous y allaient de leur petite phrase, du « on comprend, mais c'est pas la solution », ou « pourquoi ils n'étaient pas dans les manifs contre la réforme des retraites ?» oh là là, mais quand on entend ça, c'est dingue de voir à quel point ces politiques sont finalement déconnectées du réel, des faits, et puis surtout, les quartiers pauvres, ils ont oublié que c'était des ghettos, des endroits où en fait les gens ne sortent pas. On fait en sorte qu'ils sortent pas d'ailleurs.
Ouais, hein, c'est pas une volonté des gens.
C'est pas eux qui ont pas envie de sortir. Hein. C'est on leur enlève les puces, les tramways, tout ce qui permet de bouger. On met la ZFE qui fait que leurs véhicules peuvent plus rentrer dans les villes et vous êtes sûr qu'ils sortent plus. Vous voyez, c'est bien. Hein. Continuez comme ça. pardon, je suis ironique. Hein. C'est des lieux de relégation où sont enfermés tous ceux qui finalement emmerdent cette belle République et dont ils je sais pas comment dire. J'avais écrit une phrase, mais je l'aime pas en fait, donc je veux pas la lire comme ça. En fait, il serait là en suer jusqu'au dernier orteil. Vous savez, c'est politique, c'est-à-dire qu'ils ont que ce mot à la bouche. Oh, la République, la République. Alors, le respect du humain. Oh non, rien à foutre. La République.
République Uber Alas.
Voilà, non mais c'est un truc de.
Un peu ça quoi.
Non mais c'est. Ouais, on a l'impression que jusqu'à leur, si j'avais mis ça, c'est jusqu'à leur petit orteil, s'il reste plus que le petit orteil, il va vous dire la République. Vous voyez, c'est un truc. C'est horrible. Bon, comment on peut en être arrivé là, avoir une gauche qui, par ses réactions, sert justement la soupe aux réactionnaires? Mais c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discours social, il n'y avait rien, il y avait juste « c'est pas bien de brûler une école ». Ah bah non, c'est pas bien de brûler une école, ça on est bien d'accord. Mais tu t'es posé la question de pourquoi ils brûlaient l'école, quel symbole c'était pour
oui,
eux,
c'est ça,
parce que ça représentait l'école.
Il y a des symboliques quand
mais
même.
Oui, mais je veux dire, enfin, on est quand même sur des populations qui sont majoritairement, à qui on ment depuis des années, à qui on dit tu vas réussir par l'école et qui se retrouvent ghettoisés, qui peuvent pas bouger d'où ils sont, qui arrivent pas à sortir de où ils se trouvent, et là ils brûlent une école. Mais on comprend pas. Mais non, pourquoi ils ont brûlé une école? Bah, peut-être parce que c'est là qu'on leur a menti le plus toute leur vie quand même. Enfin, réfléchis deux minutes. Voilà, allume ton cerveau, fais autre chose que de la réaction. Ça va bien se passer. Enfin si, moi je sais trop bien finalement ce qu'ils veulent, ces politiques, c'est des places au chaud.
Hein,
voilà, dans les dorures. Et en fait, si vous êtes un peu trop radical, vous avez plus la place au chaud. Donc, faut quand même avoir la place au chaud. Genre, vous êtes à la retraite, vous pouvez balancer des fions à un genre Mélenchon, parce que lui, il s'en fout. De toute façon, il sait qu'il se représentera pas. Là, il continue à exister. Mélenchon, c'est un petit peu le papy vieux, tu sais, qu'on a au bout dans les mariages, qui fait du bruit. Et
oui, c'est ça. Qui t'en dire juste de temps en temps.
Oh, ta gueule. Voilà. Mais ça, c'est pas. Mais par contre, que les autres qui sont élus, machin et tout, n'aient même pas eu le réflexe d'avoir un positionnement ne serait-ce que social et sociétal.
Après, il y en a qui l'ont eu. Hein.
Oui, mais ils étaient très minoritaires.
Non, mais très minoritaires.
Et surtout, ça n'a pas duré parce que dès qu'ils ont été montrés du doigt, ils sont rentrés dans
oui.
le rang.
Oui.
C'est-à-dire que là, d'un coup, ils ont dit, je vais perdre un quart de mes indemnités.
Mais c'est ça, c'est parce que t'as raison. C'est parce qu'en fait, ils courent tellement après le pouvoir qu'en fait, ils savent qu'il faut
sérieux,
pas trop l'ouvrir.
Bah oui.
Et donc, ils sont prêts à la fermer pour garder leur petite place au chaud, quoi.
Donc, c'est important, hein, pour eux, quand même, important au point de, quand même, finalement, de condamner une révolte au lieu d'appeler à s'y joindre. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais à une époque, la gauche, elle disait il faut y aller. Est-ce qu'ils ont raison? Ben non, là on a dit oui, il faut pas, ils étaient pas là pour les retraites. Donc vous ne savez rien s'ils étaient là ou pas pour les retraites. C'est une connerie cette phrase, pardon. Bref, retour au calme. Parce qu'on y est. Et maintenant, parce que oui, on l'a remarqué, c'est retour au calme hein, quand même. Donc vu les dispositifs de répression mis en place, le retour au calme est là, hein, parce qu'on va être très clair, ça a été obtenu à coups de pioche, hein, voilà, de matraque aussi, de flashball, de balles, enfin de balles
en caoutchouc, voilà,
d'interdiction de circulation, d'interdiction de sortir. Enfin bref, ça a été obtenu quand même par une loi quasi martiale qui n'avait pas son nom.
Oui, c'est voilà. Exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même le pouvoir politique qui se la raconte en disant non, on va pas mettre l'état d'urgence.
Mais il est déjà dans la loi.
Sauf qu'en fait, c'est-à-dire quand tu restreins la circulation des individus, quand tu sors des milliers de flics en plus, quand... Bah, c'est quoi la différence, en fait?
Moi, il y a quand même un truc qui me surprend, c'est que personne n'a été choqué, ou très peu de gens. Enfin, moi, je fais partie de gens qui ont dit, mais où on en est? Et on m'a dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, j'étais surpris qu'on me dise, ah oui, c'est vrai, t'as raison. On a un ministre, qui s'appelle Darmanin, qui peut imposer que tous les réseaux de transport en commun de France s'arrêtent à 22h. Sans loi d'exception, sans loi qui explique pourquoi, sans débat au Parlement, il peut se dire, eh ben écoutez, moi j'estime qu'à partir de 22h, on arrête. Ça, c'est parce que depuis des années, en fait, on rentre les lois d'exception dans la loi. Et aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui peut faire ce que fait n'importe quel autocrate dans n'importe quel pays, c'est-à-dire décréter que vous n'avez plus le droit de bouger. C'est quand même, enfin, et ça n'a pas l'air d'avoir choqué grand monde. C'est-à-dire que d'un coup, personne s'est dit, bah merde, on n'est pas dans un pays de droit en théorie. Parce que Darmanin qui arrive et qui dit, on ferme tout partout dans toute la France à 21h ou 22h. Enfin, je veux dire, c'est aberrant quand même. Enfin, c'est...
Bah ouais, mais en même temps, ça se passe au mois de juillet. Les milieux militants sont en vacances, donc on s'excitera dessus à partir de septembre.
Ouais, mais même sans parler des milieux militants, ce qui m'inquiète, c'est que la majorité, ça, c'est finalement, n'est pas de réaction. Il y a un truc qui.
Quand
qui...
je reprenais le titre de Renault, c'est bien, vraiment, c'est parce que
France, t'as un pays de flics.
C'est un pays de flics et t'as plein de gens qui se prennent pour des petits flics, des petits défenseurs de l'ordre moral et de la loi républicaine et qui en fait en font des petits clébards du système, en fait. Mais vraiment, enfin, c'est pas juste. Pour le jeu de mots que je le disais, hein. Je le pense vraiment quoi.
Mais en fait finalement, quand on regarde bien, après ce retour au calme, les problèmes ils demeurent et demeurent même franchement. D'abord on a toujours la loi Cazeneuve hein, qui permet donc aux flics de sortir leurs armes sans limitation presque. On a toujours des quartiers entiers coupés du reste du monde. On a toujours un racisme en hausse en France et sans limite. Un article de Courrier International démontrait d'ailleurs que la police française, mais aussi ses citoyens, sont parmi les plus racistes d'Europe. Oui, ça peut vous faire bizarre, mais...
Ah, oh, mais non, c'est pas vrai. Possible dans la grande patrie des droits de l'homme.
Non, parce que nous, dans l'universalisme, on voit pas les couleurs. voilà. Oh, j'en ai marre.
ça s'entend un peu.
Oh, j'en peux plus. Non, mais alors, le discours républicaniste, il me... j'en peux plus. Rien que cela. Donc voilà, donc on a quand même une personne hein, perçue comme étrangère en France, aura donc 7 fois plus de risques d'être contrôlée par la police, 4 fois plus de risque de connaître le chômage long ou le RSA du fait d'une constante de racisme dans le recrutement en France. Si vous prenez l'article de Courrier International, il démontre par exemple qu'en Angleterre, c'est 1,2 fois. Là, c'est 7 fois. Voilà. Bon. Alors, face à cela, on entend la petite musique, hein, comme je disais, de l'universalisme poussé à l'absurde et de la République qui ne fait pas de distinction, etc., etc., etc. Pourtant, rares sont quand même les personnes vues comme blanches hein, qui tombent sous les balles des flics. Ah, je suis désolé, hein, là, par contre, c'est une statistique un peu réelle. Rares sont celles qui se voient poser la question « Et vous mangez de tout ?» dans un entretien d'embauche pour savoir si oui ou non elles sont musulmanes. Non, parce que c'est pas pour vos allergies alimentaires hein, qu'on vous demande ça. Voilà. Etc. etc. Donc on peut continuer longtemps hein, quand même à se cacher derrière notre petit doigt, continuer à défendre l'ordre républicain qui devient finalement un ordre autocratique au nom de je ne sais quelle valeur. Hein, voilà. C'est se mettre un doigt dans l'œil hein, jusqu'au coude. Rien ne va plus en réalité. Rien ne pourra changer si on n'abat pas clairement ce qui fait le système dans notre pays. Mais pour ça, il faut créer des liens entre les maltraités de la République. Il faut créer des liens entre les campagnes et les banlieues. Il faut créer des liens entre les personnes qui ne sont, pour l'état actuel, pas censées se croiser. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire. De la division d'espace. On est en train de monter Pierre contre Jacques, Paul contre machin, Moussa contre Valérie, Valérie contre... Vous voyez ? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est en train de nous faire croire que, en fait, eux, ils ont toujours plus que les autres. En fait, on est tous dans la merde. Clairement. Enfin, pas tous, mais ces quartiers, la campagne, c'est la même merde. C'est des gens dont on ne veut pas voir.
C'est la guerre des pauvres contre les pauvres. C'est ça. Tant que les pauvres se mettent sur la gueule, les maîtres seront toujours tranquilles.
Donc, il va falloir quand même arriver à faire en sorte qu'on se croise et qu'on se parle. Et ça, en fait, bah, c'est le travail des militants et militantes. C'est le travail de... Et alors, je suis pas en train de parler des anards, compagnie, là, parce que... Pardon les copains et copines et les compagnons et compagnonnes, mais c'est pas au nombre qu'on est qu'on va changer le monde, hein, pas tout de suite, j'adorerais, mais on n'y est pas encore. Non, mais c'est aussi, et là je les en remercie parce qu'ils le font vraiment, c'est ce que font des associations comme le Secours Populaire, quand ils emmènent des enfants de banlieue passer des vacances à la campagne avec des enfants de la campagne, et qu'en fait quand ils se parlent, ils se rendent compte qu'en fait passer aussi compliqué pour les uns pour les autres. Et c'est drôle parce que j'ai vu un petit reportage qui a été fait par le Secours Populaire, et j'ai trouvé le reportage génial, où il y a une petite fille qui vient de Bondy et qui parle avec une petite fille qui est au fin fond de la Creuse, ben, dans une ville, et en fait les deux elles mettent aussi longtemps pour aller à l'école, et ça les fait rire en fait, parce que bon, c'est des enfants, donc elles rient de leur malheur comme toujours, mais ça les fait rire parce qu'en fait elles disent, ah mais toi aussi tu mets trois quarts d'heure pour aller à l'école, et l'autre dit, bah oui moi aussi je mets trois quarts d'heure pour aller à l'école, et en fait tu oses dire, ils ont les mêmes problématiques de relégation, voilà, et c'est bien parce qu'ils s'en rendent compte quand se parle, donc c'est des bonnes initiatives. Je crois à ce genre de choses, et peut-être j'ai mis ma croyance à un mauvais endroit, il faut pas croire, il paraît, mais j'ai un peu d'espoir sur ce genre de choses. Voilà, voilà. Sans ça, on aura toujours des colères sporadiques, hein, des révoltes sur quelques jours, mais jamais de réel changement, parce que bah, en face, l'État il va mettre un truc répressif extrêmement fort, et surtout il a quadrillé l'État a quadrillé les quartiers, les populations pour les enfermer systématiquement quand elles commencent à faire chier. Donc voilà. De là à vous dire que la République serait un système totalement dégueulasse pour les plus pauvres, oui, c'est ce que je pense. voilà. Et je sais que ce que je dis là n'est pas facile à mettre en place. Hein. Je suis pas en train de dire on claque des doigts, tout va bien aller. Ah, voilà. Mais ça peut être justement en abandonnant la course aux places qu'on peut y arriver. Vous voyez ? Petit appel aux partis politiques de gauche. Non mais là c'était pour la blague.
Ah ouais, ok, tu me rassures.
Hey, on est au mois de juillet, il faut déconner un peu. Voilà, donc du coup. Non mais par contre c'est vrai qu'il faut arrêter aussi de vouloir faire les choses pour en voir le concret tout de suite aussi, c'est ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire qu'en fait oui ça va être long, mais il faut se lancer dans des initiatives un peu folles. Voilà, il faut tenter. Dans un pays en fait où 58% des habitants avouent avoir au moins une fois voté Front National ou Rassemblement National, oui ça fait froid dans le dos. Pensez que ceux qui sifflent Macron lors du 14 juillet, comme je l'ai pu l'entendre, sont tous de gauche ou anard, c'est pas vrai, c'est se mentir. Mais en fait, rien n'est jamais inéluctable, à nous d'inverser la vapeur, et surtout, il faut y aller vite, bien, et avec un peu d'espoir, parce que si on y va juste en se disant, on n'y arrivera pas, ça va pas vraiment marcher, ça c'est sûr. Donc voilà.
Ouais, je voudrais rappeler quand même que le dernier qui a mis une claque à Macron était d'extrême droite.
Ouais, tout à fait.
Donc non, mais il suffit. Enfin,
je dis ça parce que j'ai lu plein de trucs où les gens.
Mais en fait, c'est aussi un problème.
Les gens qui sifflent, c'est les gens qui ont fait la truc des retraites, c'est pas vrai.
Mais là aussi, mais moi je suis désolé, mais ça c'est un vrai problème. Quand t'as des militants et militantes qui arrivent à faire une analyse politique de cette profondeur aussi profonde qu'un pédiluve, je veux dire, à un moment donné. Non, mais à un moment donné, c'est que ça va pas. Quelles sont les idées qu'on propose? Quelles sont les idées qu'on défend? Qu'est-ce qu'on envisage? Qu'est-ce qu'on rêve en fait? Et le problème,
c'est ça.
Oui, c'est un truc dont on a parlé très souvent dans la causerie. Mais moi, je pense fondamentalement que les personnes, on va dire, progressistes de gauche à minima, etc. Ben en fait, il va falloir faire un peu comment on appelle ça, aggiornamento.
Aggiornamento.
C'est regarder dans le passé.
Regarder ce qu'on a mal fait.
Ben, je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être en tirer des leçons. Vous voyez, quand vous avez un vieux con, pardon, et c'est pas pour son âge, mais c'est parce que vraiment, c'est tout ce qui me vient à l'idée, comme Mélenchon, qu'il faut absolument aller voter, hein, parce que je me rappelle tous les gens là qui adorent aller voter, qui me prenaient la tête en tant qu'abstentionniste révolutionnaire de ne pas aller voter, et qui me disaient, il faut aller voter pour Méluche, mais vous voulez aller voter pour cette raclure, en fait? Mais vraiment, mais surtout, vous voulez aller voter pour une gauche autoritaire, vraiment?
Oui, et qui finalement, il suffit de regarder les discours qui ont été tenus ces derniers jours, n'est pas du tout connecté au réel.
Mais absolument.
C'est-à-dire
pas.
Et c'est ça la problématique, c'est
qu'ils ne sont là que pour utiliser en fait. Les seules fois où ils vont parler des pauvres ou des quartiers, c'est juste pour les utiliser.
Ouais, c'est ça.
C'est la seule chose en fait. Et ça, tant que les gens auront un espoir dans ces gens-là, et ben non. En fait, et l'idée, c'est pas de dire, bah si c'est pas Mélenchon, c'est Le Pen. Non, non. En fait, on peut se passer de tous.
Oui, bien sûr.
Mais il faut encore avoir une sorte d'espoir et se dire on peut y arriver collectivement.
Et les outils, c'est pour transmettre les outils.
Mais oui, et qu'en plus on y arrive collectivement.
Mais bien sûr.
Il y a plein de petites initiatives, il y a plein de petites choses qui se font. Et ben c'est peut-être juste se dire, bah, toutes ces petites choses, on peut peut-être les imaginer à grande échelle, tiens. Et vraiment, enfin, développer des imaginaires, parce que je crois que les imaginaires sont morts en 89 avec la chute du mur de Berlin, et que non, mais vraiment.
Il est temps de regarder autre chose.
Et qui, ben ouais, en fait, on manque d'imaginaire, vraiment quoi.
Je suis d'accord avec toi, et je voulais juste te dire, alors, je fais rarement de la pub pour Martin Veil, mais je vais le faire. non, mais parce que j'ai lu un truc, une interview de Martin Veil qui a fait un reportage sur les quartiers nord de Marseille.
Ouais, de Marseille.
Il a fait un reportage sur Marseille, pas les quartiers nord,
non,
mais il
Marseille,
est allé au quartier nord, quartier sud, enfin il a fait
un
reportage
sur Marseille.
Et lui, en fait, il dit dans l'interview qu'il a été extrêmement surpris, alors pas de ce qu'il a trouvé de violent dans les quartiers nord, parce qu'on va pas se voiler la face, et même les gens dans le reportage le disent, il y a un problème avec les dealers qui ont pris un petit peu le pouvoir dans les quartiers nord. Ok.
Oui.
Non mais ça c'est
oui, oui.
Mais ce qu'il a surpris, c'est les initiatives. C'est-à-dire qu'ils ont monté des poulaillers,
oui.
Ils ont monté des trucs de maraîchers, enfin oui. Des jardins, tout ça, parce qu'en fait, bah, comme en fait tout était trop cher, très cher, et qu'en fait ils n'arrivaient pas à s'en sortir, bah ils se sont dit on va cultiver. Alors ils ont monté des poulaillers, des jardins, des machins. Ils ont fait un truc un peu en autogestion, même pas qu'un peu, beaucoup en autogestion. Et c'est marrant parce que donc il dit bah voilà, les seuls poulets qu'on laisse rentrer dans les quartiers. Moi, ça m'a fait rire. Donc j'ai adoré cette phrase. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'était surtout ce qu'il y avait derrière. Et Martin Veil, en fait, dans une interview, dit que lui était parti avec un a priori. Mm-hmm. Et il dit ce qui m'arrive rarement, parce que c'est vrai que c'est un journaliste qui essaye au contraire d'éviter les a priori. Et en fait, il dit bah j'étais parti avec un a priori de me dire je vais montrer encore les mêmes images, le rappeur, le machin, machin. Et puis il se retrouve à filmer un poulailler. Et donc il se dit bah, il y a quand même un truc qui est étonnant, et ben je crois beaucoup, moi personnellement, enfin j'ai beaucoup d'espoir, j'ai pas de croyance, mais d'espoir dans ces initiatives là, dans le fait que les citoyens, comme on dit, mais j'aime pas ce mot là, mais les gens en général,
les habitants
se reprennent en main en fait, et puissent bah créer, même là où on leur dit t'as pas le droit de faire un jardin parce que c'est une pelouse, bah faire un jardin parce qu'on s'en fout, et parce qu'un jardin ça fait autant de CO2 en moins que la pelouse,
oui, et puis ça nourrit.
Donc voilà, non mais en fait, et je pense sincèrement que c'est ce genre d'outil là que les campagnes peuvent amener aux banlieues. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce genre de choses qui peuvent s'échanger. Voilà. Je suis très utopiste sans doute, mais n'empêche que je préfère être utopiste que d'attendre Marine Le Pen les bras croisés. Voilà.
Très bonne conclusion. Je propose qu'on passe à la musique. Si
voilà.
Ça te va.
Merci.
Allez.
Son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée, pour faciliter la circulation. Les trottoirs c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous, c'est les trottoirs. M'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse. On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font râle de fesses et seins roses bonbons. Mais attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, rencontrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops. Un. Manger de la soupe fait grandir. Vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite. La masturbation rend fou. Oh. Vrai ou faux? Chez les mineurs, ils sont en danger. Arakiririkira, 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 le dernier. Eden, Eden, Eden. Ici, on est libre, on n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs. Devant sa maison, ou s'y flatter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah, mais non, ah, mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps, trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Continue comme ça. Un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on?
Sur Radio Canu dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et vous venez d'entendre un de mes titres préférés, parmi tous mes titres préférés, de Colette Mani. Et ça s'appelle Répression. Et j'avais envie de la passer ce soir parce que je me suis dit que ce titre écrit en 1972.
Il n'a pas pris une ride.
Et bien malheureusement, il n'a pas pris de ride. Voilà, donc c'est peut-être ça qui est peut-être inquiétant. Ouais. Quand même, et qui montre peut-être que la continuité de la République, c'est peut-être l'oppression, l'oppression, l'oppression. Allez savoir. Donc,
voilà. Allez savoir. Et la répression.
Ben oui, et la répression, évidemment.
Et ben, c'est femme encore. Hein. C'est... Ouais, ce soir, c'est femme qui tient à
cœur. Tu l'avais répété, rien envie de foutre. C'est pas vrai.
Pas alors, complètement faux non plus.
J'étais en vacances, pas toi. Voilà, c'est tout.
Ouais. C'est vrai, plus. Alors, eh ben, Fab, ah bah, tu, pour finir, oui. Parce qu'on approche de la fin tout doucement, ouais. Tu vas nous proposer une petite.
Un petit divertissement.
Un petit divertissement.
Oui, non, c'est vrai. Oui. Parce que je voulais pas faire toute une émission plombante. Non, donc je me suis dit, c'est quand même l'été. Donc du coup, on va quand même, on mérite, vous méritez, auditrices et auditeurs, qu'on vous présente quand même aussi nos petits coups de cœur et autres que pour vous donner envie de découvrir d'autres choses. Voilà. Et puis, si vous n'en avez rien à faire, c'est pas grave, vous écoutez pas la fin de l'émission. Et pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances, de pouvoir passer un peu le temps de façon sympathique. Parce qu'on pense pas beaucoup aux gens qui partent pas en vacances, mais il y en a beaucoup.
Et qui pourtant, oui, sont quelques millions.
Ouais, et puis ils sont souvent dans des appartements surchauffés en ce moment parce qu'il y a la canicule, par exemple. Voilà. Du coup, je vais vous parler ce soir d'une série télé. Ouh, le mal. Télévision, série.
Oula, tu veux dire ça sur Radio Canada. Ouais,
et en plus, je vais parler d'une série qui est passée sur un grand média.
Oh là 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 là. Oh le mec, il est mainstream.
Ouh là là. Sur France 2. Mais qui, en fait, c'est passé donc sur France 2, mais qui, très honnêtement, vaut largement le détour. Et cette série, elle s'appelle Abyss, comme les Abysses. Voilà, tout simplement. On va commencer par préciser que cette série est une coproduction internationale et cela compte sur plein d'aspects. D'abord sa qualité, déjà, parce que je ne veux pas dire que les séries françaises sont pas à la hauteur, mais souvent elles ont du mal à avoir les budgets nécessaires pour être à la hauteur, c'est souvent ça le problème. Mais aussi sur la diversité des actrices et acteurs, des paysages et autres, parce que du coup, bah, quand vous produisez à l'international, c'est plus facile d'aller filmer à l'international, tout simplement. D'ailleurs, son titre en anglais est The Swarm, voilà, et en allemand, Der Schwarm. Voilà. J'ai essayé de faire travailler mon allemand.
C'est pas mal.
C'est pas trop mal?
Ouais, c'est pas mal.
J'ai le censeur en allemand qui m'a dit que c'était bon. Alors. Donc, la série, elle fait 8 épisodes et elle a été réalisée en 2021 par Barbara Eder, Luc Watson et Philippe Stolz. Alors, vous les connaissez pas forcément, mais vous connaissez forcément les séries et autres films qu'ils ont fait, parce que ce sont des réalisateurs qui ont fait plein de séries à succès. Voilà, il y a, je les ai pas listés, donc je vais pas m'amuser à vous les donner, mais voilà, leurs noms reviennent assez souvent sur des séries européennes à succès. Le scénario est de Steven Lally.
Jean Rex?
Non, pas Rex. Et alors, je tiens à dire, et je sais pas pour défendre Rex, mais quand même, Rex, c'est quand même vachement mieux écrit que NCIS. Voilà, bref, je ferme la parenthèse. Le scénario de la série est de Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt, Michael A. Walker. Alors pourquoi je vous ai donné ces quatre noms? Eh ben, c'est parce qu'ils ont travaillé à 8 mains, mais surtout parce qu'ils ont travaillé dans 4 langues. Et oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé de transcrire dans les habitudes de leur pays, leurs divers pays, parce qu'ils sont tous les quatre issus de quatre pays différents, le scénario avant de le globaliser ensemble, de façon à ce que ça donne quelque chose d'assez cohérent dans la façon d'amener l'histoire. C'est pas bête, hein? Vous voyez, des fois, hein, voilà. Donc, cette série est basée sur le livre de Frank. Alors là, ça fait beaucoup plus dur à dire. Schwarzig, voilà, parce qu'il y a un A très M avec des umlauts. Alors c'est Schwarz, je crois.
Yeah.
Schwarzig, qui donc il a publié en 2004 sous le même titre hein, dans tous les pays concernés. Donc c'est Abyss ou Der Schwarm, voilà, en Allemagne. Et il faut savoir que ce livre a été pendant 8 mois numéro 1 des ventes en Allemagne, ce qui est en 2004, ce qui en fait l'un des livres de science-fiction et de fantastique le plus vendu en Europe. Voilà, donc c'est quand même plutôt cool. Voilà. Mais alors, de quoi ça parle? Parce que quand même, je vous parle de série, vous savez de quoi ça parle.
Je dirais des abysses.
Eh ben en fait, oui, et c'est un thriller fantastique. Oui, tout à fait, ça parle des abysses.
Je suis perspicace. Hein.
C'est un thriller fantastique environnemental. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on peut le décrire. Alors, je vais pas en dire trop, parce que ce serait dommage. Si je vous divulgage ou je vous spoil toute la série, c'est nul. Mais on va dire simplement que des phénomènes étranges se produisent en lien avec la mer et les océans. Un pêcheur en apnée est empêché de remonter à la surface par un banc de poissons.
Ah oui.
Un peu embêtant. Des homards semblent porter une maladie mortelle pour les humains. Un peu embêtant aussi. Des vers de glace jamais observés apparaissent au fond des océans froids du globe. Et sachant que ces vers de glace sont 10 fois plus gros que d'habitude avec des dents. Voilà, donc d'habitude ils n'ont pas de dents, les vers de glace, ils sont tout petits. Et il y a des baleines qui semblent attaquer des bateaux de touristes et autres. Voilà. Donc c'est un peu étonnant, hein, mais la question qui émerge, c'est y a-t-il finalement un lien entre tout cela et tous ces phénomènes? Et si oui, bah lequel? Bah voilà. Et c'est tout le truc de la série. Donc je vais pas vous en dire plus, sinon ça va vous gâcher le visionnage. Donc on va faire un voyage autour du monde et surtout sous les mers. Parce que, bah oui, c'est les abysses. Donc au départ...
Tu vois, j'avais raison.
Donc quand même, au départ, il ne devait pas en faire partie, mais finalement, le romancier Franz Schwarzing va assurer lui-même la production de la série. Parce qu'il va se dire, bah, il faut quand même que j'ai un œil sur ce qu'ils vont faire, parce qu'il n'avait pas envie non plus que son histoire soit totalement dénaturée. Donc il va travailler avec Eric Welbers, de la société de production allemande NDF, et avec les deux producteurs, c'est lui qui va aller les chercher, de Game of Thrones, Frank Dolger et Mark Hoffman. Donc on a quand même à la production des gens qui sont plutôt des pointures, qui ont l'habitude de faire des séries correctes, et voilà. Donc assez vite, ils se rendent compte que l'ambition qu'ils ont pour la série va nécessiter des moyens qu'ils n'ont pas, tout simplement. Et donc ils vont proposer cette série à plusieurs diffuseurs, majoritairement des diffuseurs de groupes publics. Et au final, la série est une coproduction de la ZDF, donc pour l'Allemagne, de France Télévisions, pour la France, de la RAI, donc pour l'Italie, de l'ORF, pour l'Autriche, de la SRF, pour la Suisse, de Nordic Entertainment Group, pour la Suède, la Norvège et le Danemark, et de Hulu Japan, pour le Japon.
Ah oui.
Voilà. Donc en fait, bah oui, c'est-à-dire que c'est là que vous retrouvez bah, toutes les influences, parce que du coup, il y a des acteurs de tous ces pays. Et donc c'est vachement bien. Et cela va permettre d'avoir un casting qui regroupe des actrices et des acteurs venus de plein de pays dans le monde. Et c'est important quand vous parlez quand même d'un truc qui arrive à l'humanité entière, d'avoir des gens de tout ou partout. Voilà. Donc on retrouve au générique donc Cécile de France, hein, la plus belge des Françaises, hein, comme elle se surnomme elle-même. Léonie Bennett, qui est une actrice allemande, qui monte en ce moment. C'est une jeune actrice, mais qu'on a vue dans plusieurs films indépendants et qui franchement joue extrêmement bien. Barbara Sukowa, qui est une actrice allemande que vous avez pu voir, si comme moi vous avez vu Lola, une femme allemande, ou l'excellent Rosa Luxembourg, où elle a incarné Rosa Luxembourg. Voilà. Alexander Karim, qui est un acteur suédois, hein, que vous avez pu voir dans Zero Dark Thirty, et c'est un sacré acteur. Voilà. Et enfin, je mets enfin parce que j'aurais pu tous les citer plein d'autres, mais voilà. On a aussi Joshua Odjik, que vous avez pu croiser dans Wildwood, qui est un film qui parle de l'homosexualité dans les peuplades du nord du Canada. Alors, ce qu'ils appellent, eux, le B-Spirit. Parce que c'est un peu différent, voilà, c'est, voilà, mais c'est très très intéressant, le film est magnifique, hein, si vous n'avez pas vu Wildwood, il faut le voir. Et donc ils sont en fait au cœur du casting, et autour de ça vous avez des acteurs japonais, des acteurs autrichiens, des acteurs sud-africains aussi, dont j'ai pas fait la liste parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde. Voilà, mais en tout cas le casting, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune fausse note, et ça c'est assez rare dans une série, personne ne joue mal. Mais vraiment, hein, personne ne joue mal. Et tout le monde joue extrêmement bien son rôle, au sens où ils tiennent leur caractère, leur personnage, du début à la fin, dans une cohérence absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous savez, des fois, comme il y a... Alors, je ne vais pas dire ça, mais c'est souvent dans les séries, on veut aller vite, alors on fait des twists. Vous savez, le personnage, il est méchant, donc il devient super gentil. Ouais. Non, là, en fait, il y a une logique et une cohérence dans leur personnage, et c'est vraiment très appréciable. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller de la regarder, la série, en VO, pour capter les changements de langue. Et oui, parce que... Il y a des moments, les personnages, ils sont ensemble dans la même pièce. Mais d'un coup, les Japonais se mettent à parler japonais entre eux, pour pas que les autres comprennent. Or, et ça c'est un peu dommage, dans la version française, ils n'ont pas stipulé qu'ils parlent en japonais, donc c'est traduit. Comme si les autres pouvaient entendre ce qu'ils disent, comprendre. Sauf qu'ils comprennent pas en fait. Et donc en fait, ça change, parce que les Allemands par exemple parlent en anglais, et d'un coup se mettent à basculer en allemand quand elles parlent entre elles. La française... parle en anglais régulièrement, puis d'un coup paf, bascule en français quand elle doit dire un truc à son mari au téléphone, et qu'à côté d'elle elle a sa chef qui elle
genre des mises basses,
voilà. Et donc en fait ça rajoute en fait une couche à la série qui est très intéressante, mais surtout ça rajoute aussi le fait qu'on est une seule humanité, même si on parle pas la même langue, et qu'en fait on est une seule humanité confrontée à ce grand mystère qui est face à nous, et de se dire peut-être falloir à un moment donné qu'on arrête de s'engueuler, qu'on se mette un peu tous ensemble pour savoir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est une des forces de la série, elle met bien en fait l'ensemble de l'humanité en face d'un défi, et pas juste les Américains ou les Européens, parce que souvent vous avez remarqué quand même, on est souvent sauvé soit par les Européens, soit par les Américains, quoi.
Donc, voilà. C'est ça.
Là c'est vraiment une série qui se veut internationale et qui se vit comme internationale. C'est un vrai questionnement, un profond, et avec des implications fortes qui ressortiront de ces 8 épisodes, et c'est plutôt agréable parce que je trouve que c'est assez ambitieux. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de séries qui ont assez peu d'ambition sur sur ce qu'elles remuent, qui vont être agréables à regarder, mais finalement, elles vont pas vous interroger profondément. Vous allez l'éteindre et vous aurez passé un bon moment. Et en fait, avec cette série, il y a derrière des questions qui se posent et qui sont plutôt des questions parfois de l'ordre du métaphysique au sens philosophique du terme, et qui sont très intéressantes. Voilà. Okay. Donc les images marines, elles sont tout simplement magnifiques, mais vraiment. Alors je me suis renseigné, ça a été tourné par des naturalistes, donc des gens dont c'est le métier. Ouais. Donc ils ont fait des images d'une beauté à couper le souffle, mais vraiment. Et ça donne une envie d'en voir plus sans aucun souci. Hein. C'est-à-dire que vous sortez de la série, vous dites, oh, tiens, je vais aller voir les 20 milieux sous les mers, un truc de documentaire, parce que vraiment ils filment ça de façon superbe. Et que ce soit d'ailleurs aussi bien les cétacés qui sont filmés, les baleines, les voilà, que les fonds marins. Tout est beau en fait, donc voilà, et tout est bien filmé, et en fait que ce soit dans les mers chaudes ou l'océan arctique, donc du coup c'est cool parce que vous avez vraiment un panel de ce qu'est sous l'océan qu'on connaît si peu en fait globalement. Le petit bémol que j'apporterais, c'est sur les effets spéciaux, mais c'est un tout petit bémol, parfois c'est très réussi. Il y a 2-3 loupés dans la série, mais honnêtement ça n'a pas de quoi vous décrocher, c'est juste que vous allez vous dire j'aurais bien aimé un truc un peu plus péchu. Simplement on sent qu'ils ont eu un petit moment un manque de moyens, et c'est dommage, mais c'est aussi pour moi une vraie interrogation qu'on doit avoir, c'est sur la qualité des séries, sur ce qu'on produit et finalement ce que le service public peut produire et les moyens qu'on lui donne pour les produire. Et ça c'est une vraie réflexion, parce que finalement est-ce qu'il y aurait que les gens qui payent pour avoir quelque chose qui auraient le droit d'avoir des séries où les choses sont de qualité. Voilà, ça c'est une vraie réflexion, vraiment, je la pose. La musique, elle est assurée par Dacha Donna. Ah, voilà. puis elle est allemande elle aussi. Dacha Dunhauer, je pense que ça se dit comme ça, donc c'est D-A-U-E-N-H-A-U-E-R. Dunhauer?
Yeah, c'est good.
C'est good, ok. Alors, ce nom, il vous dit rien.
Genre, hein. Je suis le gars qui connaît l'allemand.
Mais tu parles mieux allemand que moi. Donc, ouais. Ce nom, elle vous dit sans doute rien. Et je vous rassure, moi non plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, cette compositrice assure vraiment. Elle pose une musique qui colle clairement aux événements, qui sait se faire discrète quand le besoin s'en fait ressentir et qui accompagne parfaitement les découvertes et les rebondissements qu'il peut y avoir dans la série sans être à l'américaine. C'est ta-ta-ta. Non, c'est plus subtil que ça. Et c'est vraiment très bien fait et ça colle à l'ambiance aquatique. Moi j'ai trouvé, alors je vous conseille, même si vous regardez pas la série, allez sur une plateforme d'écoute parce que malheureusement il y a que là qu'on trouve, ou sur voilà, et vous tapez Abyss, donc le nom en français, bande originale, et franchement c'est très beau, mais vraiment. Bref, Abyss, c'est une excellente série que je vous recommande, donc comme vous l'avez compris, et cerise sur le gâteau, elle est visible sur France.tv gratos. Bah, ça vaut quand même le coup. Et si vous voulez vraiment pas donner votre mail à France.tv, même parce que je vous rappelle, vous pouvez donner un faux mail, hein, ils s'en foutent. Mais si vous voulez pas donner le mail, on trouve d'autres moyens de la trouver sur Internet. Donc vous trouverez. Hein. Je suis pas inquiet. Encore une fois, je vous conseille de la regarder en VO, ça la rend encore plus intense. Et comme d'habitude, je suis preneur de vos retours. Voilà, donc Abyss, une série à mes yeux à ne pas rater et qui vous fera passer un bon moment.
Eh ben très bien. On passe à la ZIC.
Oui.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier, où deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise. Alors l'amour et l'amitié, n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Entre l'amour et l'amitié, ils ont barbelé des frontières. Nos sentiments étiquetés, et si on aime trop sa mère, ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en autre. On est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. Alors que l'amour et l'amitié ont la même gueule d'innocence. Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires gras de haine. Bon an, mal an, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelles. Entre l'amour et l'amitié se cache un petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Je t'aime.
t'as encore l'oreille tendue vers ton poste.
Ou, oui, c'est mieux.
Ou vers tes internets.
Ou dans tes oreilles, dans ton cœur.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu. C'est toujours la causerie encore pendant quelques petites minutes. Et on vient de s'écouter le titre... L'amour et l'amitié de Henri Tachant. Alors pourquoi ? Bah c'est la rubrique nécro de la causerie, hein, comme on le fait régulièrement.
Ouais,
en fait, c'est juste que Henri Tachant est mort la semaine dernière, dimanche dernier. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment, on vous invite à l'écouter. Parce que c'est les années 70, 80.
Oh, jusqu'en 2007.
Jusqu'en 2000, fait, ouais, mais enfin, ouais. Et il a vraiment des textes très, très, très intéressants et très beaux. Et enfin, vraiment.
C'est un immense poète, vraiment.
Et qui aborde pas mal de thématiques de la vie, mais aussi enfin, des choses comme le patriarcat, tout ça. Le virilisme, la masculinité, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Ouais.
Écoutez du Henri Tachant. Ouais. Et ben voilà,
j'ai deux rendez-vous à donner.
Ah bah, et ben très bien.
Alors lundi 24, il y a un rassemblement devant la métropole à 10h pour le soutien des jeunes réfugiés sans papier qui sont aujourd'hui pour qu'ils puissent être logés correctement. Donc c'est à 10h devant la métropole. Et sinon mardi 25 de midi à 14h, je sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu une Delphine qui était aide-soignante dans une EHPAD, et en fait son EHPAD est mis en liquidation judiciaire joie et bonheur, et donc les salariés se battent pour maintenir l'EHPAD et l'hôpital qui est en face, et donc ça se passe devant l'hôpital des Portes du Sud, c'est à Vénissieux à limite Faisin, et donc c'est de midi à 14h. Ils vous invitent à un pique-nique festif pour les soutenir et pour soutenir en fait le fait d'avoir un accès à la santé dans des quartiers défavorisés, hein, parce que on retombe sur la thématique première, donc là c'est une sorte de boucle, vous voyez, comme ça va. Il y a d'autres choses, mais je vous laisse aller voir sur Rebellion, parce que voilà, j'ai pas le temps de
C'est le premier rassemblement dont tu as parlé. Il a lieu quasi tous les jours, mais devant des lieux différents.
Oui, voilà. Et voilà. Mais en tout cas, lundi, c'est devant la métropole. Ouais. Et ils demandent du monde parce que c'est lundi.
Ok.
Je ne vois pas pourquoi c'est lundi, mais parce que c'est la métropole. Je suis fatigué, moi. Rien à voir avec le jour, c'est plutôt parce que c'est la métropole.
Et bien, très bien. Oui. Et bien, 23h.
Ouais, rubrique Nécro. Alors Tachant, il a eu la mauvaise idée de mourir le même jour que Jane Birkin, ce qui fait qu'on n'en a pas autant parlé.
Puis après Henri Tachant,
c'était un peu coupé du monde aussi.
C'était un artiste qui se positionnait plutôt en contre-pouvoir des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient.
Il n'était pas bien aimé.
Donc forcément, il n'était pas très aimé par le pouvoir et les médias. Donc voilà. Mais les médias libres comme Radio Canu.
On l'aime bien.
Voilà, on l'aime bien.
Voilà, on aime beaucoup son titre, ni gauche, ni droite, ni centre, d'ailleurs, d'Henri Tachant, on vous laissera l'écouter. Bref, je passe à Jane Birkin quand même, parce que mine de rien, c'était quand même une auteure interprète importante. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que Jane Birkin n'était que interprète. Ben non, elle a écrit quand même les 5 derniers albums qu'elle a fait. Hein, donc voilà. Donc elle était aussi autrice. Hein. Elle n'était pas que la compagne de Serge Gainsbourg, qui ça a duré que 12 ans.
Oui, c'est ça. Surtout qu'elle 12 ans sur depuis très longtemps, quoi.
Disons que 12 ans sur 50 ans de carrière, c'est pas non plus toute la carrière.
70 piges de vie.
Ouais, voilà, 76, je crois. Voilà. Ouais. Donc du coup, voilà. Mais j'avais envie de passer ce soir du coup un titre qu'elle a écrit, qui s'appelle Amar et Haute, qui est sur son dernier disque, parce que je trouve qu'on a beaucoup rendu hommage à Jane Birkin en passant les titres qu'elle faisait dans les années 70. Oui. Je trouve ça vraiment dommage, parce que franchement, écouter Birkin dans ce qu'elle a fait à la fin de sa carrière, c'est d'une sensibilité et d'une beauté souvent rare. Et une mère qui malheureusement est obligée de chanter la mort de sa fille et qui arrive à vous faire sourire sur une chanson où elle parle du suicide de sa fille, il faut quand même savoir bien l'écrire. Et voilà, donc je vous conseille vraiment d'écouter la fin de la carrière de Birkin, et pas juste les trucs qu'ont écrit Gainsbourg, parce qu'il y a d'autres choses. Et donc on se quitte avec Amar et Haute, qui est donc un titre écrit par Jane Birkin pour les paroles. J'ai perdu qui a fait la musique, je suis désolé pour lui, mais vous irez chercher.
Oui.
Voilà.
Et ben voilà, nous on se donne rendez-vous dimanche prochain, normalement.
Oui.
Hein, si pas de coup de chaud, si pas de malade.
Normalement ça devrait le faire. Maintenant on est tous les deux tombés malades une fois, c'est bon là.
Ça devrait aller. Et ben voilà, donc on souhaite bon courage à toutes et tous, bonnes vacances pour celles et ceux qui le sont, et vous avez de la chance, profitez.
Et payer de l'eau à ceux qui sont dehors parce qu'ils ont soif.
Aussi, oui, parce qu'on ne meurt pas dans la rue juste l'hiver.
Oui, hein. Voilà.
Voilà, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bon courage à toutes et à tous, des bisous et à plus. C'est ça ?
La semaine prochaine.
Allez, ciao.
Bisous, salut.